L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM en partenariat avec le CICODES, une association basée à Quimper qui œuvre pour la solidarité internationale et pour la citoyenneté. Et dans la citoyenneté, il y a ce point devenu vraiment important, les médias, leur rôle et surtout l'usage que nous pouvons faire de ces médias à l'heure des infox, des fausses informations, dont la portée s'est multipliée grâce aux réseaux sociaux, à une époque où les médias, les supports, eux aussi, se sont multipliés du fait du numérique. Il est donc devenu très important d'éduquer aux médias. Radio Évasion le fait, l'éducation aux médias dans ses ateliers radio, en initiant les plus jeunes à la production d'émissions, à la production d'informations. Mais on peut aussi faire cette éducation aux médias de bien d'autres façons, et c'est le cas des ateliers du CICODES, représentés aujourd'hui par l'une des animatrices, Amandine Dutoit. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'il y a un âge déjà pour éduquer aux médias ?
Non. Non, c'est juste les méthodes et les outils qui diffèrent. Voilà. Mais non, il n'y a pas d'âge.
Il faudrait même commencer tôt, sans doute.
Oui, tout à fait, puisque les enfants ont très tôt en main en fait, des outils médiatiques, que ce soit la télévision, la radio, maintenant les écrans, les tablettes, etc.
On sait à partir de quel âge, en gros, les enfants ont des téléphones, un téléphone portable à eux
Alors, nous, quand on intervient en collège, en sixième, selon les établissements scolaires, la grande majorité ont déjà un téléphone portable.
Alors, le CICODES fait des ateliers d'éducation aux médias depuis combien de temps environ ?
On a commencé il y a 3-4 ans, en fait, vraiment, à se concentrer sur cette thématique-là, parce qu'en fait, donc le CICODES fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Ritimo, qui est vraiment un réseau qui a pour vocation la diffusion d'une documentation, d'une information plurielle et variée sur les partenaires partout sur la planète, donc c'est-à-dire surtout les partenaires du Sud. À partir de là, bon, ben voilà, on sent bien qu'il y a déjà un point d'interrogation. On se dit, mais finalement, quelle information les médias habituels donnent des pays du Sud ?
Avec la loi de proximité bien connue, c'est en général assez la portion congrue, on va dire.
Voilà, tout à fait. Donc déjà, on avait cette attention depuis longtemps dans nos centres de documentation de mettre en valeur la parole de nos partenaires directement et donc de montrer aussi une image positive de la citoyenneté, en fait, dans les pays du Sud et puis dans tous les projets qui peuvent se mettre en place.
Et donc, vous avez commencé à faire au collège, bon, pas avant le collège, hein, pas dès la primaire quand même, non ? Collège et lycée, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Collège et lycée essentiellement, oui. Oui.
Tout le Finistère
Oui, alors le CICODES, nous sommes sur une compétence départementale. Alors même si c'est vrai que géographiquement, on intervient peut-être un peu plus sur les établissements aux alentours de Quimper, mais voilà, on peut intervenir dans tout le département, oui, effectivement.
Et comment est-ce que vous procédez alors ? Quel est l'esprit, la philosophie des ateliers d'éducation aux médias du CICODES ?
Alors nous, au CICODES, on a pour habitude de partir vraiment de la représentation des jeunes. Donc de leurs habitudes, ce qu'eux aussi ont envie d'exprimer par rapport à la thématique. Alors voilà, quand on parle des médias, on va d'abord s'intéresser à leurs usages à eux. Donc la première question, c'est, voilà, il y a une actualité ce matin, comment l'avez-vous apprise ?
Et l'avez-vous apprise déjà ?
Et l'avez-vous apprise ? Oui.
Alors, est-ce qu'ils s'informent dans l'ensemble ?
Oui, oui, oui. Ils s'informent et surtout dans un contexte de crise sanitaire comme actuellement, ils ont l'information. Ils ont l'information maintenant par des canaux qui peuvent être différents. Voilà.
Alors justement, qu'est-ce qu'ils répondent par exemple les collégiens ?
Alors essentiellement les réseaux sociaux, hein, bien sûr, les réseaux sociaux, mais aussi la radio, la presse gratuite, très peu la télévision. Au fond, et voilà, non, surtout les réseaux sociaux. Et c'est là, en fait, qu'on voit qu'il y a une grande différence par rapport à nos générations, c'est que ce n'était pas à leur âge notre façon de s'informer. Et c'est vrai qu'il y a un petit décalage, on leur dit, enfin, moi, je leur explique que c'est vrai que finalement, ils sont beaucoup plus à l'aise sur les réseaux sociaux que nous. Et donc, on a du mal parfois aussi à les accompagner en tant qu'adultes dans cette découverte et dans cette recherche d'informations.
Et alors leurs usages, vous les analysez comment ? Enfin, qu'est-ce qu'ils disent sinon sur leurs usages ?
Alors, quand on parle de leurs usages, donc de la façon dont ils s'informent, après on les questionne, on leur demande de se positionner par rapport à des, des enjeux assez enfin, que nous, on estime assez importants. Par exemple, la question de la censure, la question de la démocratie, la question du métier de journaliste, etc. Et ce qui ressort, au fond, de ces usages, c'est qu'ils se questionnent beaucoup. Il y a plutôt 5-6 ans, au début, peut-être, finalement, cette généralisation de l'usage des réseaux sociaux, les ados étaient encore très naïfs, finalement, sur les informations que pouvaient circuler les réseaux sociaux. Actuellement, les jeunes sont tout à fait conscients de la circulation des fake news, etc. Ils ne croient plus, finalement, tout ce qu'ils lisent. Mmh. Ils sont, a priori, ils vont rechercher la vérité. Ils ont cette envie-là. Maintenant, ils ne savent pas nécessairement comment vérifier une information, comment savoir est-ce que c'est une fake news, est-ce que c'est quelque chose de vrai, de faux. Voilà. Et là, par contre, ils sont perdus. Et ils le disent.
Et on a remarqué, enfin moi ça m'étonne en fait qu'il y ait un intérêt pour l'information entre guillemets des adultes. Il y a vraiment un intérêt pour l'actualité parce que moi ça m'est arrivé de sonder comme ça des groupes de jeunes plus âgés d'ailleurs et j'avais l'impression que finalement, c'était avant la crise sanitaire, hein, je suis d'accord, mais j'avais l'impression qu'ils s'intéressaient pas tant que ça à l'actualité.
Alors en fait ils vont avoir parfois un double discours, c'est-à-dire que il y a une forte critique des médias traditionnels en disant « Ah, mais de toute façon, on ne sait pas trop si on peut leur faire confiance, etc. » Donc, il y a un petit peu un rejet. Et donc, on a envie de leur... Enfin, il y a comme une envie, du coup, d'avoir une autre information et d'avoir une meilleure information et du coup, de vouloir s'informer. Mais en même temps, voilà, ils ne font pas nécessairement la démarche.
Mmh, oui,
donc, voilà. Il manque peut-être un accompagnement à un moment donné.
Et quels sont est-ce que vous voulez les interroger sur les thématiques qui les intéressent ? Parce que c'est vaste, après tout, l'information, l'actualité.
Alors, ils le disent eux-mêmes, hein, c'est que finalement, parce que du coup, on les interroge sur le type d'information, par exemple, qu'ils partagent sur les réseaux sociaux. Ils vont dire, c'est des choses qui nous font rire, c'est des choses qui nous parlent, qui nous frappent, qui nous choquent, que tout le monde doit savoir. Voilà. Après, quand on leur demande, mais finalement, oui, mais comment, quand vous partagez une information, comment vous vérifiez si cette information est juste ou pas ? Et c'est là qu'on peut voir qu'il y a déjà les premières difficultés. Lorsqu'un jeune nous dit qu'il partage une information, il sait qu'elle est vraie uniquement au nombre de vues ou uniquement au nombre de partages. Bon, ben voilà, là, il y a déjà une première remise en question. Mais comment est-ce que le nombre de vues fait que ?
Oui, fait qu'une information est vraie.
Voilà, c'est ça.
Bien non, ça se saurait, bien sûr. Et ce n'est pas la personne qui a partagé le critère. Ce n'est pas parce qu'un tel en qui j'ai confiance m'a transmis cette information que je vais partager cette information.
Si, c'est pas, ça fait partie aussi des critères qu'il cite. Hein, donc, la personne, pas nécessairement. Alors, moi, je pensais qu'il allait avoir une plus grande influence de youtubeurs, youtubeuses, influenceurs ou influenceuses, mais pas forcément. C'est plutôt des personnes, des amis, des enseignants, des adultes. Voilà, plutôt des personnes qu'ils identifient directement.
Ah oui, donc c'est important d'être sur les réseaux sociaux, nous adultes, en fait, d'être présents sur les réseaux sociaux qu'utilisent les plus jeunes, pour cette raison alors.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et quels sont-ils, ces réseaux sociaux ?
Alors, ça, c'est très différent. Alors, je vais même dire d'une classe à l'autre.
Ah oui.
Ah oui, il va y avoir des classes où on va retrouver tous les jeunes sur Instagram, d'autres, ça va être sur TikTok. Enfin, c'est très changeant. Il y a vraiment, d'une classe à l'autre, on peut avoir des pratiques très différentes.
Mais ça, c'est un problème. Est-ce qu'ils en ont conscience de cet effet un peu de silo, de communauté
Non, pas du tout. Et puis même, on va même les interroger. Par exemple, quand ils regardent une information sur YouTube, on les interroge sur les suggestions d'autres vidéos, par exemple. On va toujours être dans le même type d'information. Les algorithmes font qu'on est toujours soit dans les mêmes réseaux, soit dans les mêmes influences, etc. Et donc là, voilà, quand on leur explique, ils comprennent. Mais ils n'en ont pas conscience dans leurs usages.
Ouais, comment est-ce que vous faites pour leur expliquer les algorithmes, justement ? Est-ce que vous faites des cas pratiques ? Comment vous procédez ?
Alors, on ne fait pas directement de cas pratiques, parce que c'est vrai qu'il y a parfois un problème aussi de connexion Internet dans les classes, directement. Donc, on peut leur expliquer. Par contre, là, on a un petit jeu qui s'appelle « Dépêche ton info ». Et donc, on met les jeunes en situation, on fait des petits groupes, et puis on leur dit, vous allez rédiger un petit journal pour le collège ou pour le lycée. On fait les petits groupes et on leur donne des informations, des dépêches.
Très bien.
Puis on leur dit, voilà, avant de publier votre information sur le petit journal, ce serait bien de savoir si l'information est vraie ou pas. Et donc chaque groupe va recevoir un indice pour savoir si l'information est juste ou pas. Chaque groupe va recevoir un indice différent. Donc un groupe va recevoir un indice sur la source, un autre groupe sur la façon dont ils ont reçu l'information. Un groupe pourra faire des recherches. Et à partir de là, ils vont pouvoir se positionner, est-ce que oui ou non, on publie l'information. Et là apparaît dans les recherches notamment la notion d'algorithme.
D'accord. Voilà. Et est-ce qu'ils sont invités à faire une sélection, c'est-à-dire à exclure des informations, en choisir certaines, en retenir et puis à argumenter sur ses choix aussi?
Oui, tout à fait. Et dans ce petit jeu, ce qui est pas mal, c'est qu'au fond, on peut voir que même si on a un indice sur la source, sur la façon dont, dont on a reçu l'information, etc., tout n'est pas toujours vrai. Je veux dire, même si on a une information sur la source qui nous induit, qui nous donne envie de dire bah oui, ça, on pourrait y croire, eh bien, au final, en faisant des recherches, l'information s'avère fausse. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, qui est complexe aussi. Du coup, parce que ça montre aux jeunes que il faut vérifier la source, oui, mais en complément, faire d'autres recherches, vérifier aussi d'autres, est-ce que d'autres médias diffusent aussi cette information, sous quelle forme, etc.
Et ce travail d'identification de qu'est-ce qu'une source d'information, vous travaillez tous, enfin le CICODES travaille tout seul ou est-ce que ça peut arriver d'être en synergie avec par exemple la documentaliste, parce que la documentation, je crois qu'ils font beaucoup ça aussi dans les collèges, les CDI, ils travaillent beaucoup sur les sources.
Oui, alors avec les personnes qui travaillent dans les CDI, pas directement. Alors en général, on a une exposition qui est très bien faite sur les médias. Et du coup, l'exposition en général se trouve après au CDI. En général, nous, on travaille essentiellement avec les professeurs de français parce que la presse est au programme, en fait, des classes de 4e. Et donc, voilà, c'est essentiellement avec les enseignants que nous travaillons.
C'est la presse ou c'est les médias, ouais, d'ailleurs.
Alors, je pense que c'est la presse.
Ouais. Ouais, et parce qu'il y a aussi la semaine, il y avait la semaine de la presse à l'école, il y a les classes actu. Ça, vous pouvez intervenir éventuellement dans ce contexte-là.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est plus que la presse. Je me suis trompée. C'est sur l'information de façon plus générale. C'est s'informer, informer les autres.
Ouais, parce que. Il faut bien dire que la presse écrite, je pense que c'est un peu du passé pour tous ces jeunes collégiens, lycéens.
Oui, et en même temps, ils citent très souvent la presse gratuite. Voilà, c'est quelque chose qui, quand ils vont à la boulangerie, ils prennent très, très facilement le petit journal gratuit et ils le parcourent.
Ah ouais, bon. Ben c'est déjà bon signe. Alors ensuite, bon, on a parlé des usages, on a parlé d'identification des sources. Et bien sûr, ce ne sont pas les seuls enjeux qu'il y a autour des médias. Il y a des enjeux beaucoup plus complexes. Justement, on a évoqué rapidement sur tout ce qui est censure, tout ce qui est démocratie. Comment transmettre ça? C'est plus compliqué, enfin, surtout pour des élèves de collège.
C'est compliqué. Et puis même nous, en tant qu'adultes, on n'a pas nécessairement les réponses.
C'est ça.
Pour certaines choses. On voit bien le débat sur les comptes Twitter qui peuvent être censurés ou pas. Enfin voilà, la question reste essentielle. Et en fait, voilà, nous, on part vraiment de l'usage des jeunes. Et après, ce qu'on leur propose souvent, c'est un débat mouvant. Et au cours du débat mouvant, par exemple, une des questions, c'est faut-il censurer sur les réseaux sociaux ? Une autre question va être que pensez-vous de l'anonymat sur Internet ? L'anonymat sur Internet, c'est une bonne chose, d'accord ? Pas d'accord. Et les jeunes se positionnent, argumentent, peuvent aussi se déplacer en disant à un moment donné, cet argument-là, je suis d'accord. Pour cet argument-là, je ne suis pas d'accord. Et ce qui apparaît lors de ces débats mouvants, déjà, il y a eu une forte participation des jeunes. Ils ont envie de s'exprimer, ils ont des choses à dire. Ils ont des arguments, vraiment, on a vu dans des classes, vraiment, quand on a des classes, par exemple, de 25 élèves, avoir 12 élèves d'un côté, 12 de l'autre, et voilà, et s'échanger des arguments, c'est vraiment intéressant de les accompagner aussi dans cette recherche d'arguments, et de leur dire, pour l'instant, pour ces questions-là, on n'a pas nécessairement la réponse, nous non plus. Pour l'instant, les réponses sont celles-là. Pour l'instant, par exemple, un réseau social comme Facebook, comme Twitter, peut censurer. Mais est-ce la solution ? Est-ce qu'on a envie de confier la notion de censure à ces réseaux sociaux ?
Et comment est-ce que vous abordez la notion d'économie des médias ? Parce que bon, finalement, c'est quand même aussi un point central. Bon, il y a certes des régimes autoritaires qui censurent, mais il y a aussi tout ce qui est déterminé par qui détient les médias, qu'est-ce que ça rapporte comme argent.
Oui, alors le réseau Ritimo a créé un jeu qui s'appelle le fil de l'info, qui est un jeu qui permet justement de un petit peu déconstruire la fabrication de l'information en France. Et dans cette construction d'information, il y a bien sûr la façon dont on crée de l'information d'un point de vue rédactionnel, recherche des sources, etc. Et il y a la question économique. Alors ça, c'est une question qui est un petit peu évoquée en classe de collège, qu'on va davantage aborder en classe de lycée.
Et vous travaillez sur les questions aussi de publicité, tant qu'on y est, parce que oui. C'est très lié tout ça. Hein.
Oui, et source de financement. Parce qu'en fait, les lycéens ont davantage la question de la neutralité des médias. Mmh. Et quelque part, ils sont vraiment pas toujours bien sûr, hein, mais dans une attitude assez critique, et de dire, mais finalement, on nous ment. Les médias nous mentent. Et voilà, alors... Nous, on part finalement de cette expression, de leur expression, et on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'ils pensent cela. Alors, c'est vrai que parfois, il peut y avoir de la désinformation, mais il y a aussi de la mésinformation, ce qui n'est pas pareil, parce qu'il n'y a pas nécessairement la volonté de mal informer. Et puis, on leur explique aussi, dans le panel des médias actuels, on peut en trouver d'autres aussi. On peut trouver peut-être des médias plus citoyens, des médias plus neutres, et ça pose la question aussi de la propriété des médias.
Mmh. Et l'esprit critique, justement, alors je crois que c'est ce que veut faire en fait le Psychodèse, c'est ça. Hein, quand oui. L'éducation aux médias, c'est d'abord avoir un esprit critique. Mais comment est-ce qu'on enseigne les esprits critiques? Enfin, je ne sais pas si on peut enseigner ça en fait.
Alors, non, enfin, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On part surtout de la pratique. Mmh. En fait, par exemple, sur la question des médias, on va leur proposer soit des informations, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos. Et on part avec eux, on leur dit, voilà, on va faire une vérification. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cette information est vraie, n'est pas vraie? Pourquoi, etc. Et donc voilà, soit vous savez maintenant, les tableaux en classe qui permettent d'avoir un grand écran avec Internet, etc. Les tableaux interactifs. Donc ça, c'est super, parce que du coup, on peut faire avec toute la classe. Ouais. Parfois, on peut le faire aussi sur support papier. Avant d'avoir ces tableaux-là, on imprimait, puis on leur montrait la démarche en fait, de recherche. Mm-hmm. C'est vraiment ça.
D'accord. Les questions d'anonymat, enfin pas d'anonymat, mais cette fois de traitement des données, enfin de confidentialité en fait, c'est ça. Est-ce que ça c'est une question que vous abordez? Parce qu'il y a dans les usages des médias, il y a ça aussi. L'éducation aux médias, c'est ça aussi.
Oui, tout à fait. Donc il y a une question dans le débat mouvant qui est l'anonymat sur Internet est une bonne chose. Vraiment, la première réaction de beaucoup de jeunes, le ressenti et leur demande, c'est d'avoir une protection, en fait, d'être protégés sur Internet. Et ils ne se sentent pas assez protégés par rapport à des sites malveillants, par rapport à la pornographie, par rapport au harcèlement. La question d'anonymat, ils ne la maîtrisent pas très bien parce que c'est compliqué pour eux. C'est-à-dire quoi l'anonymat, quelle est la différence avec la protection des données? Mais oui, par contre, ils veulent être protégés. Et si pour eux, leur protection passe par l'anonymat, ça peut passer par l'anonymat du coup. Voilà.
Et est-ce qu'après, ils ont une bonne... j'imagine que non, mais une bonne notion de des droits, c'est-à-dire droit à l'image, qu'est-ce qu'est de la diffamation, qu'est-ce qu'est de l'insulte, qu'est-ce qu'on peut dire sur Internet? Est-ce que ça a progressé?
Alors, par exemple, sur la question, peut-on censurer sur les réseaux sociaux? Enfin, doit-on censurer? Très souvent, ils se mettent plutôt du côté « oui, il faut censurer ». Ils sont vraiment dans cette positionnement-là. Et puis, quand ils argumentent, ils expliquent « non, on ne peut pas avoir des propos homophobes, on ne peut pas avoir des propos racistes, etc. » Et donc, voilà, là, il y a une confusion entre le délit,
ce qui relève du droit, et
finalement, la censure. Donc voilà, ça permet aussi, parfois, ils ont certaines notions, ils entendent des mots, mais... La réelle définition, c'est qu'ils mettent derrière n'est pas tout à fait juste. Et donc, ce type de discussion où on est vraiment sur de l'expression libre permet de bien repositionner les choses. Et là, les professeurs, les enseignants qui sont avec nous sont essentiels parce que du coup, voilà, ils rebondissent aussi sur ces définitions qui sont exactes. Enfin, voilà, on apporte vraiment des informations complémentaires, en fait.
Et en termes de thématiques, est-ce qu'il y a des thématiques qui les intéressent particulièrement, d'autres qui les laissent indifférents, justement? Est-ce qu'on peut travailler là-dessus aussi?
Oui, alors nous, une thématique qui revient souvent, c'est la représentation notamment des femmes et des hommes dans les médias. Voilà, donc les questions de sexisme, mais aussi les questions de minorité culturelle. Voilà, ça c'est une thématique qui leur parle.
C'est eux qui soulèvent cette question, quoi.
Oui, qui soulèvent. Et puis, alors, notamment vis-à-vis de la télévision, hein, ils sont très critiques par rapport... et dans la publicité, on parlait tout à l'heure de la publicité, du sexisme un petit peu ordinaire qu'on peut retrouver dans les images véhiculées par le rôle de la femme, le rôle de l'homme.
Et sur les sujets, vraiment, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des sujets comme, qui les intéressent plus, comme l'environnement, enfin, je dis un peu ça au hasard, hein, mais ou au contraire, la politique, ça les intéresse moins, enfin, est-ce qu'il y a des...
Alors, au niveau politique, ils interviennent très peu sur ces questions-là. Enfin, en tout cas, on a très peu d'interrogations. Par contre, oui, l'environnement, tout ce qui est social aussi, la pauvreté, l'exclusion, le racisme, oui, c'est des sujets qui les intéressent. Tout à fait.
Ils citent spontanément. Est-ce que, par exemple, quelqu'un comme Greta Thunberg, ça leur parle? Est-ce que parce qu'on en a fait une icône de la jeunesse, mais en fait, c'est peut-être pas trop le cas de leur point de vue, finalement.
Alors, pas nécessairement, non. Non, c'est vrai qu'ils n'ont pas cité de personnes. Mais par contre, ce sont des causes. Des causes, par exemple, la question des déchets, la question alimentaire, le fait de moins manger de viande, etc. Ça, ce sont des choses qui reviennent assez souvent dans leurs interrogations.
Qu'est-ce que vous proposez d'autre comme atelier concret pour les faire réfléchir à leur usage ou à leur regard sur les médias?
Alors, on travaille beaucoup avec le débat mouvant. Ensuite, il y a le petit jeu là sur Dépêche ton info, qui est donc un travail en petit groupe. Ce qu'on peut faire aussi, c'est décoder finalement des vidéos. On a des vidéos. Alors, par exemple, on l'a fait par exemple avec un jeu du type Fort Boyard, par exemple. Alors là, on est plutôt pour analyser les positionnements des hommes et des femmes dans les médias. Dans un jeu comme Fort Boyard, quels vont être les angles de vue des caméras lorsque c'est une femme qui est en action dans un jeu ou lorsque c'est un homme? Quels sont les commentaires des présentateurs, etc. Et du coup, par exemple, un groupe va décoder le passage où une femme joue et puis un autre groupe lorsque c'est un homme qui joue. Et puis on compare.
Et vous avez un suivi sur le long terme, le Psychodes, ou est-ce que c'est des séances ponctuelles? Comment ça se passe?
Alors, on peut avoir un suivi sur le long terme, mais toutefois, on est plutôt demandé pour des séances ponctuelles. Parce qu'en général, nous, on introduit la séance, enfin, on introduit la thématique, et puis les enseignants vont travailler la question de l'information de façon plus générale. Donc, ils aiment bien de partir de notre séance, de ce qui s'est dit avec les jeunes.
Et sur les thématiques historiques du Psychodes, à savoir l'actualité, enfin pas l'actualité internationale, mais la situation internationale, oui. les rapports avec ces pays qui nous paraissent si lointains, est-ce que vous arrivez quand même aussi à transmettre un peu sur ce sujet-là?
Oui, alors c'est souvent ce que... pas la semaine passée, donc juste avant le confinement, il y a quelques semaines, on était justement en animation sur les médias. Et un jeune a dit, ah ben oui, mais de toute façon, on ne nous parle jamais de ce qui se passe en Afrique, on ne nous parle jamais de ce qui se passe en Chine, etc., ou dans d'autres pays. Et puis voilà, nous on a répondu, mais nous on le fait. Si tu veux vraiment avoir des informations sur par exemple, la situation des Ouïghours en Chine, tu peux t'abonner à des associations, à des sites d'information qui vont le relayer, en fait, la lutte pour la défense des droits des Ouïghours.
Donc, il y a un intérêt, quoi.
Ouais. Oui. Mais voilà, après, nous, c'est ce qu'on leur dit, c'est une démarche citoyenne. Finalement, leur esprit critique sur lequel on a pu un petit peu travailler pendant une séance de sensibilisation, après, c'est à eux, au quotidien, de faire un effort. C'est un effort, quelque part, hein, d'aller chercher l'information. C'est du temps passé. Et ça, c'est à eux de le faire.
Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre pour que l'éducation aux médias soit plus complète, en France en tout cas, du point de vue d'une assoc comme le Psychodes?
Alors moi, je pense que... Alors, je vais plutôt répondre du point de vue des jeunes. En fait, ils ont besoin de dialogue. Ils ont besoin de discuter, ils ont besoin d'interroger les adultes, ils ont besoin d'avoir des lieux de discussion pour échanger sur leurs pratiques et sur ce qu'ils voient. Ils le disent, quand je disais tout à l'heure qu'ils demandent à être protégés, c'est vrai qu'ils disent, mais nous on voit des images parfois qu'on n'a pas envie de voir.
Ah oui.
Et ils ont besoin de le dire, ils ont besoin d'en discuter avec les adultes. Et ça, je pense que c'est important parce que parfois nous, on ne se sent pas légitime parce que ce ne sont pas nos pratiques, ce ne sont pas nos usages. Mais pourtant, il y a besoin d'un dialogue avec eux.
Alors ça, l'école le fait. Il pourrait y avoir aussi ce type de... Ouais, dans des espaces plus ludiques, on va dire. Enfin, les espaces jeunes ou les...
Les parents? les familles, tout jeune avec qui on est en contact, en fait, ça peut se faire de façon très informelle, ça peut se faire aussi à l'école, bien sûr. Mais je pense qu'il y a ce besoin, en fait, de les accompagner. Parce que, par exemple, si on prend une thématique comme la théorie du complot, par exemple...
Vaste sujet.
Voilà. Ils ont entendu ce que c'est, mais ils ne savent pas, en fait, derrière... Ce que c'est réellement. Ils se disent, c'est vaguement un complot, etc. Mais se dit, enfin voilà, jusqu'où va la théorie du complot ? Ils n'en ont pas conscience, en fait. Ils n'ont pas conscience des enjeux et puis ils définissent très mal. Or, on sait très bien que cette théorie du complot se diffuse très rapidement sur les réseaux sociaux.
C'est théorie, parce qu'on va dire qu'il y en a plein.
C'est théorie, tout à fait.
Ouais. Et, c'est vrai qu'on n'a pas trop évoqué le rôle des familles. Qu'est-ce qu'ils en disent, en fait, de l'usage des médias dans leur famille, s'ils en disent quelque chose ?
Alors, Je peux citer un jeune qui nous a dit mais en fait ça c'est le rôle des parents. C'est le rôle des parents de nous dire sur tel site tu peux aller, sur tel site tu peux pas aller, ou il ne vaut mieux pas aller, ou attention, fais attention à cet usage, etc. Ils le disent, ça peut être le rôle des parents maintenant. Voilà, c'est compliqué pour les parents parfois.
Hein. Le problème, c'est qu'il y a certains parents qu'il faudrait former aussi à l'éducation aux médias.
Oui.
Là, le Psychodes pourrait proposer des ateliers, je ne sais pas où d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
merci Amandine Dutoit. On retrouvera le Psychodes peut-être encore une fois avant la fin de la saison. Je n'ai pas regardé, j'avoue, mais sinon, ce sera l'année prochaine, très certainement.
Eh bien, avec plaisir.
Merci.
Bonne journée à tout le monde. Au revoir.
Au revoir.